Ainsi, peut-être pour boucler avec les personnes qui s'étaient inscrites pour rebondir à l'avance sur votre intervention ou pour une question, une remarque, Hélène Vial, qui est maîtresse de conférence latin à l'Université Clermont-Auvergne. Vous êtes là également, Hélène, je crois, si vous souhaitiez intervenir ou pas forcément.
Oui, je veux bien. Est-ce que vous m'entendez?
On vous entend très bien.
Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à assister à ces journées qui sont vraiment passionnantes. Je n'ai pas à proprement parler de questions à poser, mais j'ai été très sensible ce matin et puis ces dernières semaines en lisant les travaux de Camille Froidevaux-Métry, très sensible à cette définition du féminin comme rapport à soi, aux autres et au monde, je vous cite, qui passe par le corps et qui est déterminée par le corps, et très sensible aussi à ce geste de remettre le corps des femmes en l'occurrence, au centre de la réflexion. Et je crois que j'y ai été sensible à plusieurs titres, à la fois en tant que femme, tout simplement, et femme aussi concernée d'une certaine manière par l'intersectionnalité. En tant que mère et mère de deux filles, une ado et une pré-ado, en tant qu'universitaire, beaucoup d'universitaires vivent comme s'ils n'avaient pas de corps et de corps sexué, et ou peut-être feignent de vivre ainsi pour peut-être sauver leur peau par ailleurs dans la carrière universitaire. Et puis dans mon parcours, j'ai connu un certain nombre d'épisodes très intéressants du point de vue de la place du corps féminin à l'université. Et puis enfin, en tant que chercheuse et en tant que chercheuse travaillant sur Ovide, et notamment sur les métamorphoses d'Ovide. Alors, Ovide, c'est un homme qui a vécu il y a plus de 2000 ans, puisqu'il est mort en 17 de notre ère, et il vit dans un patriarcat absolu, qui est la Rome du début de l'époque impériale, mais il écrit deux textes, entre autres, hein, deux textes extraordinaires du point de vue du corps, et notamment du point de vue du corps féminin, L'art d'aimer, puis Les Métamorphoses. L'art d'aimer, c'est l'un des premiers textes, sinon le premier, dans l'histoire littéraire et culturelle, à dire, à placer la femme au cœur de la relation amoureuse et sexuelle et à décrire la jouissance féminine. Il le fait aussi dans Les Métamorphoses et à dire l'importance de la jouissance féminine, importance qui doit être aussi grande que celle de l'homme, que l'importance de la jouissance de l'homme. Et puis, il écrit Les Métamorphoses, et Les Métamorphoses, c'est le règne du corps, et notamment du corps féminin que l'on voit naître, naître parfois d'un corps d'homme d'ailleurs, vivre, souffrir, jouir, se transformer, parfois se transformer en un corps d'homme. Ce règne du corps, il se passe dans une perspective phénoménologique, fondée sur l'expérience vécue. La perspective des métamorphoses d'Ovide est une perspective phénoménologique par excellence. Avec, je reprends l'une de vos phrases dans l'un de vos livres, mais pardon, je ne sais plus lequel, mais avec une subjectivité corporelle qui s'accompagne d'innombrables variations individuelles. Vraiment, j'ai reconnu d'une certaine manière l'univers ovidien sur lequel je travaille depuis longtemps dans ces phrases-là. Il y a une puissance de la femme ovidienne. Puissance individuelle et collective d'ailleurs, il y a une véritable sororité qui est définie par Ovide, et c'est une puissance qui est enclose et manifestée dans les corps, dans le corps de la femme. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, et c'est peut-être au fond pour ça qu'on m'a invitée d'ailleurs, j'ai été très sensible à votre intervention, et pour faire peut-être un lien avec l'intervention suivante, tout cela se passe au sein d'une conception que l'on peut qualifier, que l'on qualifie d'ailleurs pour certains d'écologique du monde, au sens où Ovide entend le monde comme un tout. Habité par une fluidité absolue, par une contiguïté universelle et par une interdépendance vitale et fragile de toutes les composantes du monde. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie beaucoup. Si je n'ai pas mis ma caméra, c'est pour
Oui.
différentes raisons. Mon réseau n'est pas très bon. J'ai vu dans le
Excellent.
chat que certains se demandaient où
Oui.
j'étais. Donc,
Merci de répondre.
je suis là, mais je suis un peu malade et emmitouflée dans des châles. Et en plus, chose un peu amusante par rapport aux échanges de ces journées, je suis dans ma cuisine, qui est l'endroit où, avec le tout distanciel qui nous est imposé depuis maintenant des mois à l'université, l'endroit où je travaille sinon le mieux, du moins le moins mal. Et d'ailleurs, ma fille aînée, qui est une jeune féministe très active, pleine d'acuité et d'ironie, ne manque pas de sourire, voire de rire du fait que je sois en permanence dans la cuisine. Et elle m'a cité il y a quelques jours un texte d'un rappeur, un texte très violent et très provocateur qui date de 2020 et qui dit: Et la place de la femme, elle est où? Dans la cuisine.
Merci Hélène. On est ravis que vous ayez retrouvé votre voix parce que votre intervention aurait fait défaut. Et merci pour la transition avec l'intervention de Jeanne Burgard-Goutal parce que, enfin, sauf hurlement désespéré de votre part, on a une demi-heure de retard sur notre
Alors, moi,
planning.
j'ai quand même une proposition à faire
Voilà. Alors,
avant.
peut-être Jeanne, vous souhaitiez poser une question ou essayer. Voilà.
Moi, j'ai une proposition à faire à Camille, dont j'aimerais bien avoir votre réaction. J'étais en effet, je vous suis tout à fait sur qu'est-ce qui serait la spécificité d'un lien social que vous nommez sororité, donc qui serait une spécificité féminine, un lien social féminin et pas du côté de la féminité. Et c'est très intéressant la manière dont vous l'apportez. Et en effet, c'est en lien avec ce qui vient d'être dit, à partir du corps, hein, à partir d'une expérience du corps, je l'évoquais hier. Et en vous écoutant, à la fin de votre propos, puisque vous avez essayé de plaider qu'il faudrait un peu alléger la haine entre les sœurs pour que ce lien puisse devenir un peu plus opératoire, je me disais que... Justement, si ce lien social-là spécifique, qui est en train de voir le jour, il s'installait vraiment face à un autre lien, plus spécifiquement masculin, ou plus spécifiquement du côté des hommes, est-ce que vous pourriez envisager que ça allège la guerre des sexes?
Je suis un peu embêtée parce qu'on vient de dire qu'on a une demi-heure de retard, donc
Je pense que c'est une question qui peut intéresser beaucoup de personnes. Je pense que...
Alors, juste une précision, ce n'est pas tellement une question de haine entre les femmes, c'est de détestation de soi produite par la concurrence organisée. Donc, c'est...
Oui, non, mais ça peut être la haine de soi. Enfin...
Oui, mais vous avez dit haine entre... J'ai compris en tout cas. Alors, la question que vous soulevez, c'est celle de la place des hommes dans le féminisme, qui est une question importante, à laquelle aussi je travaille pas mal. Notamment en duo avec l'homme de ma vie sur ce sujet. Et je suis en train précisément d'essayer de comprendre ce que le féminisme a fait aux hommes ou pas, et quelle pourrait être leur place. Et il me semble, en tout cas, moi, ce que je propose, et c'est pour ça que je laisserai de côté cette idée de guerre des sexes, parce que elle est pour moi, cette expression de guerre des sexes, c'est un argument antiféministe qui mobilisait depuis toujours, qui renvoie aussi à cette idée que les féministes seraient. Des hystériques confites dans la détestation des hommes, ce qu'elles ne sont évidemment pas, même si dans certains courants de pensée féministe, il y a quelque chose de la misandrie et d'une nécessaire misandrie. Enfin, je pense que quand on est féministe, on est nécessairement misandre. Enfin, en tout cas, c'est ce dont j'ai un peu pris conscience à la faveur des débats qui ont émaillé un peu cette année féministe avec certains ouvrages, notamment. Néanmoins, il se trouve que parce que ce que nous vivons aujourd'hui se condense sur cette question sexuelle, on va dire. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse aller très loin si on n'accepte pas, en tant que féministe, que les hommes ont quelque chose à dire, et aussi peut-être même encore plus, davantage encore, quelque chose à faire. D'abord vis-à-vis d'eux-mêmes, je crois que ce serait ça qu'il faudrait essayer de mettre en place, c'est-à-dire comment faire en sorte que les hommes puissent accepter un retour sur eux-mêmes au prisme de ces propositions féministes. Et comment ensuite penser quelque chose qui soit de l'ordre d'un combat partagé. Enfin, il y a déjà, alors, cette année, on n'a pas pu le vivre pour des raisons évidentes, mais dans la précédente grande marche, nous toutes, il y avait des initiatives d'hommes qui avaient souhaité prendre leur part aux côtés, plutôt même derrière les femmes qui défilaient ce jour-là. Et je pense que c'est cette visibilité, une sorte de soutien, donc il y a ce mot souvent employé d'allié, hein, pour qualifier les hommes féministes ou les hommes, disons, qui soutiennent les féministes. Et je pense qu'il faudra aller un peu plus loin que cette position d'allié, parce qu'une fois encore, puisqu'il est question de sexualité, puisqu'il est question de violence sexuelle, comment on traite cette question d'un point de vue masculin, et notamment comment on peut penser la déconstruction des injonctions et des dictats qui pèsent sur les hommes. J'en ai dit quelques mots rapidement en termes d'injonctions. Toutes les injonctions à la performance notamment, elles sont une des raisons de la violence des hommes sur les femmes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un excès qui est produit par des attentes qui sont, et des normes qui pèsent aussi lourdement sur les hommes.